une fois pour toutes. Une émission proposée par la Concertation des Églises Chrétiennes de Liège.
Amis auditeurs, bonjour. Durant le mois de juillet se déroulait le camp CAP, un camp de jeunes interéglises en Namibie et en Afrique du Sud. Aujourd'hui, j'ai demandé à Babette Tonon, ma fille, de venir partager avec vous cette expérience. Babette, bonjour.
Bonjour.
Alors, je propose que, bon, nous nous connaissons, mais pour nos amis auditeurs, eh bien, je propose peut-être que tu te présentes et que tu dises un petit peu qui tu es, quel âge tu as. Et...
Je suis Babette Tonon, j'ai 17 ans, je vis à Serein, donc tout près de Liège.
Peut-être qu'on pourrait simplement dire, tiens, tu as participé à un camp de jeunes inter-église, quel est ton sentiment par rapport aux activités d'église
En Belgique?
En Belgique, oui.
Revenu du camp CAP, on peut faire beaucoup de comparaisons par rapport aux jeunes là-bas dans les églises et aux jeunes ici dans les églises.
Alors voilà, tu as participé à un camp CAP. CAP, qu'est-ce que ça veut dire d'abord?
Donc, c'est camarades, artisans, partenaires.
Et qu'est-ce que ça signifie?
Ce sont des échanges entre jeunes de différentes églises avec différents pays. La Belgique, le Rwanda, l'Afrique du Sud, l'Allemagne. En tout cas, cette année, on était ces pays-là. Il y avait aussi des Namibiens cette année. Et donc, on fait des échanges, on voit la vie là-bas, on peut découvrir les églises et la manière de vivre des gens dans les églises dans différents pays. Et cette année, on a pu découvrir cela en Afrique du Sud et en Namibie.
Ce sont des camps qui ont lieu tous les combien de temps?
Tous les 2 ans.
Oui. Et combien de participants par pays vont
10 jeunes par pays. Et en tout cas, pour la Belgique, il y a 2 accompagnateurs, un irlandophone et un francophone.
Alors, comment est-ce que l'idée t'est venue de participer à ce camp CAP? Comment est-ce que tu as eu connaissance de ce camp?
Il y a eu des formulaires dans les églises. Et tu as déjà participé aussi. J'en avais déjà entendu parler à la maison. Donc, je me suis dit, pourquoi pas moi? Et donc, j'ai proposé. J'ai été à plusieurs réunions dans lesquelles ils expliquaient les projets là-bas et tout ça. Et...
Donc c'est un camp qui a lieu tous les 2 ans, à tour de rôle, dans les différents pays participants, qui réunit des délégations de pays, 10 jeunes avec 2 accompagnateurs par pays. Pour faire quoi?
Sur place, on fait différents projets que les résidents du pays organisent pour nous. On découvre des jeunes et des manières de vivre, on échange nos connaissances... Et on agit cette année, on a beaucoup agi auprès d'enfants, dans des églises et dans des écoles, des enfants qui étaient malades, qui avaient le sida, des gens pauvres, on a été voir la pauvreté. C'est pas un camp où on agit vraiment, on peut pas dire qu'on a construit une école ou qu'on a beaucoup fait de nos mains, mais c'est quelque chose, un camp qui nous permet de découvrir et de voir la réalité de nos propres yeux. Pas comme à la télé, ça, c'est plus réaliste, tout devient réaliste.
Ce sont donc des camps aussi qui se passent parfois en Belgique, si je comprends bien. Donc tous les X temps, il y a un camp qui est organisé en Belgique.
Oui.
Oui, on peut peut-être quand même signaler, parce que ça, je peux quand même le signaler, c'est que le dernier camp CAP s'est passé en Belgique et il a été dispatché entre la province de Liège et la province d'Anvers. Ce que je trouve intéressant donc, dans ces camps, c'est que ce ne sont pas toujours des jeunes des pays du Nord qui vont au Sud pour voir comment ça se passe dans le Sud, mais ce sont aussi des jeunes des pays du Sud qui viennent au Nord. Mmh. Et donc ça, c'est vraiment à tour de rôle. On peut participer à plusieurs camps CAP dans son existence?
On peut participer à plusieurs camps CAP. On a des amis qui ont déjà participé plusieurs fois. Maintenant, après un certain temps, on peut devenir leader. Donc, c'est-à-dire un chef. Mais le camp CAP, personnellement, je pense que je laisserai la chance à d'autres de voir. Puisqu'on est déjà parti et qu'on sait qu'on va repartir, moi, je sais que je vais y retourner. Je pense que je préfère laisser la place pour des gens qui ne sont pas partis et qui n'auraient peut-être pas l'occasion de le découvrir autrement.
Quand tu dis « je sais que je vais y retourner », tu veux dire que dans ta vie, tu as l'intention de retourner en Afrique?
Oui.
Ah, je croyais que tu étais en train de m'annoncer qu'il fallait que je mette déjà tout en place pour le prochain camp. Ça me rassure. Nous faisons une petite pause musicale et nous nous retrouvons tout de suite après. Vous écoutez RCF, la radio dans l'âme. Au micro Vincent Tonon, je reçois aujourd'hui ma fille Babette qui partage avec nous son expérience du camp de jeunes CAP en Afrique du Sud. Alors on vient d'écouter la musique du Mundial, cette musique qui a marqué évidemment la période du mois de juillet, musique de circonstance puisque c'était en Afrique du Sud et que à cause du Mundial, grâce au Mundial, vous avez commencé votre voyage là-bas, non pas par l'Afrique du Sud, mais par la Namibie. Alors bon, peut-être qu'avant de parler de cette découverte de la Namibie et de l'Afrique du Sud, on pourrait peut-être simplement dire, pour préparer ce camp, qu'est-ce qui avait été organisé? Est-ce qu'il y a eu des rencontres préparatoires?
Bon. On a eu plusieurs rencontres. Les premières, c'était avec tous ceux qui voulaient participer au camp CAP. Et puis le groupe a été formé, donc on a eu plusieurs rencontres pour apprendre à se connaître ceux qui allaient vraiment partir. Des rencontres pour savoir comment est-ce qu'on allait gagner de l'argent pour pouvoir partir et payer les billets, puisqu'on payait aussi les billets des Rwandais.
En quelque sorte, un sponsoring pour les participants africains des pays du Sud.
Oui, pour aider nous aussi à payer nos billets. Oui. On avait plein de projets de faire ensemble, tout le groupe ensemble, et ça ne s'est pas fait parce qu'on était dispersés dans toute la Belgique. Mais des groupes se sont formés, donc ceux du côté flamand ont fait leur groupe, ceux du côté francophone ont fait leur groupe. C'est aussi plus facile d'organiser des choses quand on parle la même langue. Quoique les néerlandophones parlaient très bien français.
Et les francophones ?
Et les francophones ne parlaient pas très bien néerlandais. Heureusement, il y avait l'anglais pour sauver la situation s'il fallait. Nous, on a organisé du côté francophone avec une amie, Déborah Mistretta, un souper africain pour gagner des fonds. Donc, on avait décoré toute l'église, on avait des mamas africaines de nos églises qui avaient cuisiné très gentiment pour nous et on a gagné beaucoup d'argent. Les gens se sont très bien amusés. On a eu beaucoup de jeunes qui ont participé en chantant, en mettant de la musique. Et donc, on a eu des très beaux projets pour participer. Et puis, on a eu des réunions avant le départ pour préparer la présentation de la Belgique en Afrique du Sud. Parce qu'en Afrique du Sud, durant le séjour, chaque pays présenter son pays, on a eu des pièces de théâtre, on a eu des musiques, des danses. La Belgique, on avait fait des jeux de société, des mémories avec des photos, des jeux de Pictionary géant. Et on devait aussi cuisiner. Alors ça a été toute une affaire parce qu'on n'avait pas beaucoup, beaucoup d'argent. Alors pour faire un hachis parmentier, on avait deux pots de compote. Alors finalement, on a fait un hachis parmentier avec des épinards, mais on a dû beaucoup jouer, mais c'était très marrant.
Est-ce qu'il y avait un thème particulier pour ce camp ?
C'était la confession de Bellart, une manière de vivre. Alors malheureusement, on n'a pas pu vraiment en parler beaucoup parce qu'on a eu des soucis avec des pannes de car, des restés coincés dans la nuit, dans la brousse. Et donc tout notre horaire a été un peu perturbé. Maintenant, on a pu la lire et en discuter. Donc c'est une confession qui a été faite suite à l'apartheid. Mm-hmm. Donc pour stopper l'apartheid et en tout cas faire en sorte qu'elle ne reprenne pas. Maintenant, on a découvert là-bas qu'il y avait encore l'apartheid dans certaines églises. Le pasteur Liane de Hout a été, elle, dans une église quand on était en famille d'accueil qui était pour l'apartheid. Et on s'est quand même posé la question. On était un groupe avec des Namibiens, des Sud-Africains, des Rwandais, des Belges et des Allemands. On a eu de la chance que ce soit deux Belges qui soient tombés dans cette famille-là. On s'est demandé si ça avait été deux Sud-Africains, un Namibien ou un Rwandais, qu'est-ce que ça aurait été la réaction de la famille d'accueil ?
On peut imaginer peut-être que les organisateurs ont veillé à ne pas prendre le risque de...
Pourquoi mettre une famille qui prône l'apartheid ? Peut-être pour nous faire découvrir qu'il y en a encore. Maintenant, c'était assez choquant.
Peut-être qu'on peut expliquer pour les auditeurs. En fait, la situation de l'Afrique du Sud, on a vu pendant le Mondial, il y avait l'anniversaire de Nelson Mandela. Donc on nous montre toujours l'Afrique du Sud post-apartheid. On nous dit l'apartheid est fini, il n'y en a plus. La confession de foi de Bellart, peut-être qu'il faut préciser que c'est une confession de foi qui date d'avant la fin de l'apartheid et qui prônait en quelque sorte une réconciliation et l'acceptation des différentes composantes de la société. C'est une confession qui a été reprise par l'Église réformée unifiante d'Afrique du Sud, qui est l'Église partenaire de notre Église protestante unie de Belgique, et que cette confession de foi a été reprise aussi parmi les confessions de foi de l'Église protestante unie de Belgique. Donc c'est une volonté de l'Église protestante unie de Belgique de vraiment œuvrer à encourager ce processus. Et souvent, on a l'impression que l'apartheid était fini, mais ce qu'on ne dit pas, c'est que quand l'apartheid a été aboli, toutes les propriétés, tous les biens, toutes les possessions étaient à des Blancs. Donc, sur papier, dans la Constitution, c'est aboli. Mais dans les faits, comme ils détiennent encore tous les tous les atouts en main au niveau de la propriété des biens, y compris des églises, et il y a des problèmes dans certaines églises où ce sont des minorités blanches qui refusent l'utilisation à la majorité noire des lieux de culte. C'est un petit peu ça que tu évoquais. Alors, bon, peut-être qu'on va commencer peut-être par le début de ton voyage. Voilà, tu pars, vous vous rejoignez à Zaventem, vous décollez, vous partez, la grande aventure a commencé. Alors peut-être tu peux nous raconter des anecdotes de ce voyage.
Donc, quand on a pris l'avion, on a appris avant d'embarquer que c'était le premier vol pour une des campers, donc Marie-Hélène. Ça a soudé le groupe parce qu'elle avait assez peur, en fait. On s'est dit un premier vol de 9 heures pour arriver jusqu'à Jobourg. Et puis, il a fallu encore prendre un autre vol pour aller jusqu'à Windhoek. Alors, à Windhoek, on est arrivé et ils n'ont pas voulu nous laisser rentrer en Namibie. Parce qu'on devait écrire des papiers en disant notre âge, notre nom, les cartes d'identité, il fallait marquer tous les renseignements, et mettre où on allait, donc l'adresse exacte. Mais on n'avait pas l'adresse exacte, donc on était coincés du côté des avions, et on avait les gens qui nous attendaient de l'autre côté. Alors Marilyn a dû aller chercher, revenir, ils n'étaient pas d'accord. Maintenant, nous, on a eu la chance de passer. Les Rwandais ont été refusés, donc ils ont été remballés en Afrique du Sud. Heureusement, là-bas, les pasteurs qui nous ont accueillis plus tard, nous, dans notre voyage, ont tout de suite arrangé quelque chose. Ils ont été pris là où on a logé, très bel endroit entre parenthèses, et ils ont fait des activités, ils ne sont pas ennuyés. Eux, ils étaient à Bloemfontein pour la Coupe du Monde, ou à Johannesburg. Non, ils étaient à Johannesburg pour la Coupe du Monde. Donc, ils ont été devant le stade faire la fête. Arrivés en Namibie, en fait, on avait très, très froid. Donc, ça, c'est ce qu'on se souvient. Il faisait très, 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 très froid. Le soir, il faisait nuit, donc on avait piqué les couvertures dans les avions. Hein, ils donnent des couvertures, on avait repris les couvertures et on était emmitouflés parce que c'était trop froid.
Oui, ça c'est évidemment une découverte, c'est que quand il fait chaud, il y avait la canicule ici en Belgique et là-bas c'était l'hiver austral.
L'hiver.
Et donc il faisait froid. Et si j'ai bien compris, si je me rappelle bien, toute l'équipe a été acheter des bonnets, des chaussettes.
En Namibie, sur le temps de midi, on avait chaud. Mais à partir de 4 heures, il faisait froid. Donc, on était avec nos pulls. Alors, on mettait pull sur pull. Et arrivé à Bloemfontein, on a dû acheter des radiateurs. Comment? Parce que le centre dans lequel on était n'était pas chauffé. On a acheté des radiateurs.
Carrément.
Ouais.
Oui, donc évidemment, c'est un budget qui explosait, si je comprends bien, au niveau de l'organisation.
Oui, puis c'était un peu la guerre pour la chaleur, évidemment. Heureusement, l'église qui nous a accueillis avait des couvertures qui, normalement, est pour les gens dans la rue, qui distribuent dans la rue. Ils avaient des stocks et ils nous ont donné des couvertures. Donc, on a eu un stock de couvertures. On avait 2 couvertures par personne et ça allait un peu mieux. Et puis après, on les a rendues et elles ont été distribuées dans la rue.
Comment ça se passait la relation entre les différentes composantes qui parlaient des langues différentes? Parce que j'ai bien compris, il y avait des Allemands, il y avait des Sud-Africains qui parlaient l'afrikaans, il y avait des Rwandais, il y avait des Belges, il y avait... Bon, donc comment ça se passait dans ce groupe-là? Déjà, rien qu'entre Belges, vous étiez une délégation mixte.
Oui, entre Belges, ça a été parce que les néerlandophones parlaient très très bien le français, et puis on avait l'anglais. Maintenant, les groupes se sont scindés. Les Belges francophones se sont beaucoup rapprochés des Rwandais, qui ne parlaient pas spécialement un très bon anglais, mais qui parlaient français. Et les néerlandophones se sont rapprochés des Allemands, parce qu'ils parlaient tous anglais. Et les Africains, les Sud-Africains et les Namibiens, parlent très très bien anglais. Même les enfants qu'on a rencontrés parlent mieux anglais que certaines personnes ici qui parlent très bien anglais,
donc
parce que c'est la deuxième langue.
Le liant de tous les groupes, en fait.
C'était l'anglais qui était au sein de tout.
Ah oui. Alors, Babette, on a parlé un petit peu du voyage, on a parlé des participants, on a situé le cadre. Maintenant, tu as souvent évoqué les églises, les visites aux églises, ce qui s'est passé. Qu'est-ce que tu peux nous dire un petit peu de ce qui s'est fait au niveau des églises, de la découverte de la spiritualité différente et ainsi de suite?
C'était un camp très chrétien. On avait des dévotions le matin et le soir. Chaque pays, à tour de rôle, faisait la dévotion. Il y avait des études bibliques aussi, donc ça mené par les leaders de pays, donc les pasteurs ou les organisateurs. On a visité beaucoup d'églises et ce sont des églises fort différentes d'ici. Parce qu'elles sont beaucoup, en tout cas de celles que je connais moi, parce qu'elles sont beaucoup plus vivantes. Il y a une église, donc ça c'était à Jobourg, où le pasteur faisait de la basse, sa femme chantait, sa fille était à l'ordi, il y avait une batterie, une guitare, il y avait des saxophones, et alors pendant le culte, ils font des grandes danses, tout le monde danse.
Un rêve pour une fille de pasteur, quoi.
Ah oui, moi je trouvais ça très très amusant. Alors il y a des gens qui crient aussi, donc les dames africaines, hein, elles lancent leurs cris, c'est très impressionnant. Et puis... il y a aussi un moment dans le culte là-bas qui est très agréable, c'est au tout début, tout le monde se serre la main. Donc tout le monde se lève et marche dans l'église et se serre la main et tout le monde dit « Ah, c'est une belle journée ». Tout le monde parle un peu et c'est très impressionnant parce qu'au fond, la première fois, on était à Windhoek et tout d'un coup, tout le monde se lève, tout le monde s'en va, part partout, marche partout. Et puis, on a découvert qu'ils se serraient les mains. C'était tout naturel pour les Sud-Africains et pour les Namibiens. Pour les Allemands et les Belges, c'était un peu moins. Hein. Mais après, on s'y est fait. Alors, on parle avec les gens sont très accueillants. Beaucoup de chants, beaucoup de musique. Et des longues, longues, longues prédications. Des prédications qui durent parfois 1 à 2 heures où on écoute en anglais. Et dans une des églises, c'était à Windhoek, une prédication qui était traduite en soutou peut-être, donc en anglais et chaque fois traduit. Donc elle a duré le double du temps évidemment. Alors on écoutait, finalement il y avait des moments où on décrochait un peu, mais bon, c'était compliqué.
Qu'est-ce que tu retires le plus de cette expérience-là, dans cet aspect
Il y a beaucoup de foi. Là-bas, la foi est omniprésente dans les rues, dans la pauvreté. C'est beaucoup plus croyant. On a rencontré des gens qui vivaient dans la rue et qui étaient simplement heureux de nous dire qu'ils s'étaient réveillés le matin et que Dieu était avec eux. Donc c'est très impressionnant pour nous qui, en Belgique, au fond, on a Dieu en second plan. Et là-bas, c'est en premier plan, malgré qu'ils ont besoin de choses, ils sont dans le besoin. Mais pour eux, Dieu leur apportera tout et c'est leur foi.
Dans CAP, il y a camarades, artisans et partenaires. On a compris camarades, on a compris partenaires et puis maintenant artisans. Vous avez participé à des projets particuliers ?
On a beaucoup participé à des projets avec des enfants. Celui dont je garde le plus gros souvenir est après un week-end où on s'est retrouvés ce week-end-ci avec les néerlandophones. Je sais que c'est le projet qui a le plus touché même les autres du camp CAP. C'est le projet à Gobabas. C'est la rencontre avec le peuple San. Donc en fait, on a été dans une école pour découvrir les enfants là-bas, un projet qui a été organisé par une personne qui essaye d'instruire les enfants pour qu'ils sortent du cercle de ce peuple-là, qui est très très pauvre, qui est en manque de nourriture, en manque d'argent, en manque de travail. Donc les enfants sont très très pauvres, ils étaient sales, malades, souvent ils avaient le sida. Et c'est un projet qui prône la nutrition une fois par jour. Donc sur l'entrée, l'enseigne, il est écrit en grand « nutrition une fois par jour ». Donc au fond, les enfants sont envoyés à l'école, pas tellement pour apprendre, mais plus pour manger. Et ceux qui ne vont pas à l'école ont droit à manger à la maison, mais ils doivent travailler. Donc ils prônent l'anglais, donc ils apprennent l'anglais aux enfants. Alors nous, quand on est arrivés, ils étaient tous assis et ils attendaient d'avoir à manger. On a été servis avant eux. Et on n'a pas su manger parce que c'était une espèce de pâte immangeable et on a dû attendre que les enfants aient mangé, mais on n'a pas su manger nous-mêmes parce que c'était vraiment pas bon. Alors on les a vus manger par terre, on les a vus manger avec les doigts et au fond, la nutrition une fois par jour, c'est pour pouvoir leur donner leurs médicaments parce que comme ils n'ont pas à manger en dehors, ils ne peuvent pas prendre les médicaments en dehors de ce cadre-là. C'était assez touchant. On était fatigués parce qu'on avait eu un long trajet. Arrivé là-bas, on a joué toute la journée avec les enfants. On a peint dans leur classe pour laisser quelque chose derrière eux, un peu plus de joie. Alors, ils faisaient semblant qu'ils ne parlaient pas anglais. Donc, ils faisaient semblant de ne pas comprendre nos jeux pour nous apprendre à nous à jouer à leurs jeux. Et puis, à la fin, ils nous ont dit au revoir en anglais, bye-bye et tout. Alors, on était là, ah d'accord.
Malheureusement, le temps nous presse, nous arrivons déjà à la fin de cette émission. Alors, je vais poser une dernière question après cette belle expérience et après.
Donc, j'ai toujours rêvé de vétérinaire et revenu d'Afrique, j'espère pouvoir devenir vétérinaire sans frontières pour pouvoir agir là-bas et aider au développement là-bas.
Eh bien, ce sera le mot de la fin, un beau programme. J'espère que tu pourras y arriver. Amis auditeurs, je vous remercie d'avoir été avec nous et je vous dis à très bientôt pour, je l'espère, un nouveau moment en votre compagnie.